Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Olivier Larose. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force, épisode numéro 84. Aujourd'hui, pour vous parler d'actualités sportives qui se sont passées soit à Montréal ou dans le reste du monde, bien évidemment, je suis accompagné de mon cher Doual Ibrahim et Thomas Lafond. Comment allez-vous, messieurs?
Ah, ça va très bien. Grosse semaine de
Ouais.
sport qu'on a eu la semaine passée.
Pas juste
Et
grosse semaine de chaud aussi, là.
ouais, aussi.
Ouais,
Il
pas
faisait
mal.
grosse canicule hier, surtout, là.
Ouais, j'espère
Yes.
que vous êtes bien hydratés, mesdames et messieurs, parce que samedi et dimanche, il y a eu des grosses températures. Qu'est-ce qui sont dans vos regards, dans vos plans aujourd'hui, messieurs? On va commencer par toi, Dolly.
Ben écoute, hier, j'étais allé me mettre en forme dans cette grosse chaleur-là. J'ai décidé d'aller jouer au soccer puis d'aller jouer dans une ligue
Bonne
à
idée,
Montréal.
hein?
Ouais, fait que j'étais allé jouer tout. Ça m'a vraiment fait du bien.
T'es
Fait que j'étais
courageux.
allé poursuivre la
Hein,
canicule.
courageux, c'est ça?
Ouais, hyper courageux, mais tu sais, j'ai joué. C'était pas mal. C'était surtout en début de soirée, là. C'était un peu des
Ah,
alentours
ça
de 17-18 heures. Fait que c'était pas si pire au niveau de la température, mais tu sais, j'en ai quand même profité pour faire du sport parce que. Oui, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il faisait chaud hier que ça voulait dire que je ne pouvais pas me mettre en forme. Au contraire, je trouvais que c'était presque une température idéale pour être à l'extérieur. Mais faut être toujours hydraté, c'est ça l'important.
c'est vrai, effectivement.
de ton côté, Thomas.
Ben moi, de mon côté, samedi, ben ma famille est descendue de Shawi à Montréal. Fait que j'ai été passer l'après-midi avec eux. C'est un samedi, puis aujourd'hui, je suis allé au golf, mais il annonce ça de la pluie pendant toute la journée. Finalement, présentement, ben, il mouille pas, ce qui me
Regretter.
met off un peu de ma
Ouais.
journée, mais je suis très content de faire un retour en force avec vous quand même.
Ben, si ça met off de ta journée, il faut bien que je te relance avec ta première chronique, mon cher Thomas. Il faut qu'on parle de balle.
Ah, écoute, ça me met heureux par contre. Mais oui.
Faudrait trouver un petit jingle maintenant, donc, Thomas, qui
Ouais,
parle de
un
balle.
petit jingle de baseball, ce serait
On avait
parfait.
vu la date limite des échanges qui se déroulait aujourd'hui en MLB, Thomas.
Oui, en fait, c'était pas aujourd'hui, c'était
Mardi,
mardi.
excuse.
Mardi,
Excuse,
la
mardi.
semaine passée. Et bien, on surveillait, entre autres, qui allait acquérir les services de Juan Soto. J'en ai parlé, donc, ben, la semaine passée. C'est finalement les Padres qui ont remporté ce derby-là. En retour, les Nationals acquièrent les services de Mackenzie Gore, CJ Abrams, Robert Hassel, le troisième, et d'un autre prospect. J'ai le nom devant moi, James Wood, ainsi que Yarlin Susanna et Luke Voit, qui lui n'est pas un prospect, mais plutôt un joueur établi qui pourrait rendre de fiers services aux Nationals. Dans le fond, Mackenzie Gore et CJ Abrams avaient fait leur début dans les ligues majeures cette saison, avaient très bien commencé leur carrière. Avec eux, les Nationals obtiennent de l'aide immédiate et de l'aide profiteure, alors que les trois autres, c'est vraiment des espoirs qui risquent d'atteindre les majeures dans les prochaines années. Et ben, Luke Voit, ce n'était pas supposé être celui qui prenait la direction de Washington. C'est plutôt supposé être Eric Hosmer. Par contre, Hosmer avait une clause de non-échange. Donc, il fallait qu'il accepte l'échange. Finalement, il a refusé. Il s'est fait échanger plus tard aux Red Sox de Boston. Donc, Luke Voit a pris sa place. Josh Bell prend également la route de San Diego en compagnie de Soto. Donc, les Padres qui viennent d'améliorer le rendement de manière assez importante avec l'acquisition de Soto et de Bell, sachant que il y a déjà Manny Machado et Fernando Tatis Jr. qui devraient revenir d'ici les prochaines semaines. Dans le cas de Tatis Jr., a commencé sa réhabilitation dans les ligues mineures samedi, dans le 2A des Padres, donc il devrait revenir d'ici le mois de septembre. Donc, ça devient très intéressant pour les Padres qui sont présentement dans la course aux séries et à seulement quelques matchs des Dodgers et du premier rang de la division Ouest de la Nationale. D'ailleurs, les Dodgers et les Padres qui s'affrontent présentement dans une série en fin de semaine. C'est la série qui va être terminée au moment que vous allez écouter l'épisode. Mais pour l'instant, les Dodgers qui ont dominé les deux premières rencontres de cette série, ça se termine ce soir à 19h en tant que match. Le match qui est diffusé à la télévision nationale aux États-Unis, match de la semaine du dimanche soir. Padres Dodgers. Écoutez, je vous invite à l'écouter, à écouter la reprise, en fait.
Oui, c'est ça.
De ce
match va être passé, malheureusement.
C'est ça, ça risque d'être très divertissant. Et il y a encore 9 autres rencontres entre ces deux équipes-là. D'ici la fin de la saison, ça risque d'être très, très divertissant, cette rivalité-là. Autre que ça, les Padres ont été quand même très actifs lors de la limite des échanges. Ils ont également fait l'acquisition de Brandon Drury. Des Reds de Cincinnati. En retour, tu as la récourse Victor Acosta, un autre jeune qui quitte le navire de San Diego. Et ont également fait l'une des autres grosses prises de la période des échanges. Deux jours auparavant, en allant chercher Josh Hader des Brewers de Milwaukee. En retour, les Padres sont donnés Trevor Rogers, Denelson Lamette, ainsi que deux espoirs qui s'en va vers Milwaukee. Même si Hader a connu des difficultés dans les dernières semaines, en fait, depuis le début du mois de juin, sa moyenne de points mérités est autour des 8, ce qui pourrait avoir à la fin de match des chiffres complètement désastreux. Mais en temps normal, c'est un des meilleurs releveurs des majeurs. Donc, s'il peut se replacer, les Padres qui se ramassent avec l'une des meilleures formations des majeurs suite à la limite des échanges. Donc, grosse journée du côté de San Diego. Autre que ça, il y a eu quelques autres échanges qui ont retenu mon attention. Notamment Frankie Montas qui s'en va avec les Yankees. C'était l'un des trois partants les plus en vue dans la limite des échanges. Ça va aux Yankees en retour de quelques espoirs qui s'en vont vers Oakland. Va solidifier la rotation de partants des Yankees qui n'avaient pas tant besoin d'aide, mais devient un troisième partant de luxe à New York. Donc, les Yankees qui se préparent pour les séries avec une rotation vraiment toute étoile. Sinon, Noah Syndergaard quitte les Angels vers les Phillies en retour de Mickey Moniak, un ancien premier choix total qui tarde un peu à avoir un impact, ainsi que d'un espoir de niveau 2A. Qui s'en va du côté des Angels. Les Phillies qui ont vraiment connu une bonne limite des échanges avaient besoin d'un venture défensif, d'un releveur ainsi que d'un partant. On a cherché les trois avec Otis Syndergaard qui est partant. On a cherché David Robertson en provenance des Cubs ainsi que Brandon Marsh en provenance également des Angels, mais dans une transaction séparée. Sinon, les Blue Jays ont été actifs un peu. On peut chercher des gros noms comme Soto ou Otani. Mais du côté des Jays, on cherchait un partant, on cherchait des releveurs et un frappeur gaucher. On n'a pas pu aller chercher un frappeur gaucher. Mais par contre, on a cherché Whit Merrifield en provenance des Royals de Kansas City. Grosse transaction. Un joueur très versatile. Qui peut jouer autant au champ extérieur qu'à l'avant-champ en retour de deux espoirs. Par contre, le problème, c'est qu'il n'était pas vacciné. Donc, il ne pouvait pas jouer à Toronto. Mais Merrifield s'est fait vacciner, donc va pouvoir jouer à Toronto, je pense, dès qu'il va avoir sa deuxième dose, si je ne me trompe pas. Mais écoutez, je suis pas sûr là-dessus. On a également la sélection de Mitch White des Dodgers en retour de deux joueurs mineurs. Ça, c'est un partant. Ainsi que deux releveurs, Anthony Bass et Zach Prop, en provenance des Marlins, en retour de Jordan Groshans. Groshans qui était un des hauts espoirs d'organisation à l'arrêt court. Par contre, à l'arrêt court, on sait que les Blue Jays ont déjà Bo Bichette. Donc, pas vraiment de place pour lui. On a changé de service pour aller combler un besoin important de releveur. Donc, ce sont moi une bonne transaction pour les Jays. Les Jays qui sont présentement en première place des équipes repêchées et sont bien dans ça. Ils sont dans la course aux séries, dans l'américaine. Donc, écoute, on rentre officiellement dans la fin de la saison. Et les courses au championnat qui débutent officiellement, ça va être très, très divertissant à suivre dans les prochaines semaines. Je vous invite grandement à suivre ça, non seulement à Retour en Force et aux autres podcasts du Québec All, mais également à l'Entour de Relève, mon podcast de baseball, que je vous invite à écouter, à nous suivre sur Spotify ainsi que sur les réseaux sociaux. Donc, petite plug ici, mais ça, le baseball, ça va être très intéressant dans les prochaines semaines. D'ici fin novembre, début novembre, en fait, de ça.
Ouais, ça va finir, genre, je pense que j'ai vu l'arrêt des Blue Jays, je pense qu'ils finissent le 5 novembre, fait que ça va être pas mal ça pour tout le monde. Là, 5,
ben, en fait, la saison se termine début 6. Octobre. Oui.
Ouais, 5 novembre, ouais, octobre, excuse.
Ouais, et puis après, c'est série, donc.
Ouais, c'est ça. À peu près, les séries durent quoi? Ça doit être un mois, ça aussi, là, dans le même. Ouais, c'est ça. Fait que les Blue Jays qui sont en direction pour l'instant d'aller chercher une place en série, c'est à savoir si ça va être à confirmer. Parce que c'est sûr que, bon, quand on regarde le classement, on voit que la division des Blue Jays, bon, on voit que les Yankees sont à
70, ouais,
sont trop devant.
Ouais, sont vraiment partis au loin.
Ouais, non, c'est ça, il y a comme 11 matchs d'avance. Donc, ouais. Face aux Blue Jays. Fait qu'après, les Blue Jays devront faire un petit peu comme les équipes dans la LNH, de faire des équipes repêchées. Mais c'est la même chose ici, mais sauf que là, il y avait juste une équipe qui a la place en série dans la division, puis après, le reste tout en
repêché. C'est les trois meilleures équipes qui ne sont pas champions de leur
division. C'est un petit peu comme la LNH. C'est juste que la LNH, ils prennent trois de chaque division.
Exactement.
Donc, ce sera à suivre le baseball. De toute façon, on n'est clairement pas fini d'en parler. Je sais que
Pour faire mon update hebdomadaire à Retour en Force.
Et la saison est loin d'être terminée, bien évidemment, au baseball. Parlons maintenant de soccer, Doualé. Où est-ce que le CF Montréal, malheureusement, perdu 2 points, si on peut dire ça comme ça, a essayé d'aller chercher une victoire face à l'Inter de Miami. Finalement, ça s'est terminé par une nulle. 2-2.
Ben écoutez, le CF, cette semaine, la semaine dernière, a joué 2 matchs durant cette semaine-là. Tout d'abord, je vais commencer avec celle de mercredi dernier, ce fameux match entre le CF de Montréal et le Crew de Columbus, alors que le CF se déplaçait du côté de Columbus. Puis on a eu le droit à un match avec des circonstances assez particulières, parce que je vais vous expliquer. Tout d'abord, le CF perdait 1-0 assez tôt dans cette rencontre-là, en partie grâce à un but rapide dans la 15e minute de Lucas Zelarayan, qui avait marqué le premier but du match côté de Columbus. Puis par la suite, les minutes s'écoulaient jusqu'à la 74e minute, où que le match a été interrompu en raison des orages. Alors, le match a été interrompu pendant 90 minutes. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé durant ces 90 minutes-là de pause. Ça a permis, je ne sais pas qu'est-ce que Wilfred Nancy a dit en particulier à ses joueurs, mais ça a vraiment permis au CF de créer un exploit et d'aller chercher cette victoire-là du côté de Columbus. Grâce à 2 buts dans les derniers instants. Tout d'abord, à la 87e minute, Kai Kamara a créé l'égalité dans cette rencontre-là et au moins donné le match nul à ce moment-là pour le CF Montréal. Puis lors des arrêts de jeu, ben, c'est le défenseur Joel Waterman qui a inscrit le but de la victoire et donné 3 points importants au CF de Montréal et donné une grosse victoire au CF du côté de Columbus. Puis c'était vraiment incroyable, il faut le dire. Là, c'est...
Mais Doualé, il ne faut pas oublier aussi qu'une pause, là, ça change un momentum. Là. Ouais. C'est la même chose au tennis ou même au baseball là, ou quoi que ce soit. Là. Une pause, ça peut changer complètement le match. Là, quand tu domines ou quoi que ce soit, là, tu veux finir le match au plus rapidement possible parce que tu ne veux pas que la pluie elle tombe ou l'orage elle tombe pour que la game elle s'arrête. Là.
Non, c'est sûr, mais ça a été extrêmement bénéfique pour le CF, cette pause-là de 90 minutes. Puis ça a vraiment permis à Montréal de créer ce genre de hold-up qui, en remportant ce match-là, on va le dire de façon extrémiste, mais c'est quand même une grosse victoire. Puis, évidemment, bien, il y a eu ce fameux match samedi soir, ce match du côté du CF Montréal. Du côté du Stade Saputo, pardon, entre le CF et Miami. Comme tu l'avais dit, Ali, c'est un match nul. C'est une rencontre qui s'est terminée par la marque de 2-2, mais c'est un match nul à savoir la défaite pour le CF de Montréal. Il faut le dire, ils ont raté de nombreuses occasions, puis ils ont mené à deux reprises dans cette rencontre-là. C'est sûr que Romelu Kyoto avait marqué un doublé, dont le premier but du match après 5 minutes de jeu. Puis c'est ça qui est fou, c'est que après que Romelu Kyoto ait marqué son premier but à la 5e minute, ben Gonzalo Higuaín, l'attaquant de l'Inter de Miami, a marqué 90 secondes plus tard. Puis par la suite, ben, le CF a réussi à reprendre les devants grâce à un penalty converti par Kyoto qui marquait son deuxième but de la rencontre. Puis le CF a raté de nombreuses occasions dans cette rencontre-là. Puis à la 87e minute, ben, l'Inter de Miami a trouvé le moyen de marquer un but sur un retour de tir de la part de Emerson Rodriguez. Puis grâce à ce but-là, ben, ça a permis à Miami de soutirer 2 points du CF Montréal. Évidemment, ben, de créer ce match nul-là là, de 2-2. Fait positif quand même du côté de CF Montréal. Ça fait quand même 5 rencontres qui sont invaincues. Vécues sans défaite. Oui, il y a eu 2 matchs nuls lors des 2 dernières semaines avec celle du New York City FC de 0-0 et celle de samedi soir de 2-2. Mais il reste invaincu. Mais la raison pour laquelle cette défaite-là est souvent mal, c'est que le CF de Montréal essaie vraiment de solidifier sa 3e position au classement général. Ben, pas classement général, mais au classement de l'Association de l'Est. Puis, c'est une occasion un peu de perdu pour le CF de solidifier ça. Mais au moins, la bonne nouvelle aussi, c'est que le CF est toujours au troisième rang et ils sont quand même à 10 points en avant de Chicago Fire qui est 7e et la dernière équipe qualifiée pour l'instant en séries éliminatoires. Mais on espère sincèrement que le CF trouve d'autres moyens de gagner des rencontres. Puis surtout, lors du prochain match, ils se déplacent du côté de Houston où ils n'ont pas connu beaucoup de succès dans leur histoire du côté de Houston. Il faut le dire, l'affiche du CF Montréal du côté de Houston, c'est 0 victoire, 8 défaites, 1 match nul. C'est pas l'affiche du siècle. Ils doivent se déplacer là-bas du côté de Houston et d'essayer de se tirer... Des précieux points, peut-être une victoire, mais c'est comme je l'ai dit, c'est pas un endroit que le CF a connu beaucoup de succès dans leur histoire. Mais également, là, on va changer de sujet, ben parce qu'en fait, c'est le même sujet, mais on va aller du côté du
secteur européen. Du côté européen, l'autre. On traverse un océan.
On traverse un océan parce que c'est le retour du soccer européen. Ben en fait, de 3 grandes ligues européennes durant le week-end de vendredi, samedi, dimanche. Évidemment, ben, il y a le retour de probablement la ligue la plus compétitive de soccer au monde, celle de la première ligue anglaise, où que Thomas va être content. Mm-hmm. Ça a commencé avec cette victoire d'Arsenal. Cette victoire d'Arsenal par la marque de 2 à 0. Attends une seconde. Contre Crystal Palace, c'est ça que je cherchais.
Ah, mais là, il jouait contre Crystal Palace. Là.
Mais quand même, j'allais dire, c'est quand même été une belle victoire du côté d'Arsenal. Puis par la suite, ben, parmi les gros têtes d'affiche, il y a Liverpool samedi qui ont concédé un match nul assez surprenant face au promu de Fulham. Oui, c'était le retour de Fulham en Première Ligue.
Fulham, ben, écoute, c'est pas compliqué. Quand Fulham est en Premier League, Norwich est en Championship. Puis quand Norwich est en Premier League, Fulham est en Championship.
Il n'y a pas tort.
Merci, Thomas. Fait que là, tu es en train de dire que Norwich va revenir l'an prochain, Thomas?
Ouais, ça devrait être ça.
Puis après, il faut l'aborder ça.
On verra. Écoute, j'espère que ta prédiction va devenir réalité, mais c'est vrai que si on suit la tendance des dernières années, c'est vrai
là, maintenant, que... Vu que Thomas l'a dit, ça va plus être ça.
Mais il y a eu d'autres matchs aussi du côté de la Première Ligue. Évidemment, il y a eu la victoire de Chelsea face à Everton par la marque de 1-0. Tottenham qui a gagné 4-1 dans leur premier match contre Southampton. Manchester United, sous les rangs d'Eric Ten Hag. Oh, attends une seconde, j'ai failli moffer son nom de famille.
Ten Hag,
merci beaucoup. Merci Thomas. Malgré cette arrivée-là, ont perdu leur premier match du côté d'Old Trafford face à Brampton. Et perdre cette rencontre-là par la marque de 2-1 avec Cristiano Ronaldo qui crée un peu la polémique due au fait qu'il veut quitter Manchester United. Et il y avait également Raphaël Varane, ancien défenseur madrilène qui était réserviste lors de cette rencontre-là. Puis, c'est ça, Manchester United qui perd encore des points. Et évidemment, on en avait parlé la semaine passée des ratés de Erling Haaland face à Liverpool. Ben, c'est chose du passé, Thomas, t'avais raison. Erling Haaland a su dimanche faire taire ses détracteurs de la semaine dernière. En offrant la victoire à Man City face à West Ham grâce à un doublé, deux buts de Erling Haaland et grâce à ça, Manchester City a su remporter cette rencontre-là. Puis c'est comme ça que ça entame cette première journée de Première Ligue. Il y a aussi le retour de la Bundesliga aussi, qui est de retour, qui a commencé vendredi dans ce gros match entre le Bayern de Munich et le Frankfurt Eintracht. Écoute, match à sens unique du Bayern de Munich qui a remporté 6-1 leur premier match, grâce également à un but du nouvel arrivé Sadio Mané, fraîchement parti de Liverpool. Puis, à l'heure actuelle, sans surprise, le Bayern de Munich est premier de Bundesliga. Puis également, pour terminer, il y avait le retour de la Ligue 1 française, où la majorité des équipes ont joué leur rencontre lors de diffusion de l'épisode. Il reste juste la rencontre entre Marseille et Reims qui a lieu à l'heure actuelle où on enregistre l'épisode. Mais on va le dire, le Paris Saint-Germain a quand même bien commencé sa saison en remportant 5-0 face à Clermont. Oui, c'est quand même Clermont, c'est pas une grande équipe de Ligue 1, mais il faut quand même mentionner le Paris Saint-Germain qui a remporté son premier match de sa saison.
Messi et Neymar qui ont été excellents.
Lors de cette rencontre-là, là, c'est un but, trois passes décisives pour Neymar et deux buts, une passe pour Lionel Messi. Puis un retourné également, retourné en raptor de Lionel Messi dans cette rencontre-là qui est probablement, probablement le meilleur but, le plus beau but de la nouvelle saison pour l'instant. Oui, la saison est encore jeune, mais il faut le mentionner, Lionel Messi a connu beaucoup de succès lors de cette rencontre-là. Le duo Messi-Neymar a connu un excellent match. Puis Kylian Mbappé était absent lors de cette rencontre-là. Donc, ces deux-là devaient se lever. Puis ils ont réalisé une grande performance. Il faut quand même le dire, c'est face à Clermont. Là, c'est pas, euh, C'est pas comme s'il jouait en Ligue des Champions, mais c'est un bon début pour le Paris Saint-Germain. Donc, c'est ça qui complète ce tour d'horizon soccer, moitié CF Montréal MLS et moitié soccer européen, dont j'espère que Thomas est très heureux de ce succès d'Arsenal lors de la première
journée. Oui, ben écoute, c'est le début.
C'est le premier match de la saison, on l'oublie pas. Là.
Ouais, je sais, mais c'est encourageant. Si tu compares, mettons, Arsenal, la saison passée, qui avait une fâcheuse tendance à choquer, disons comme ça, face à des petits clubs, des clubs petits comme Crystal Palace, entre autres. Je me rappelle une séquence vers la fin de la saison où ils ont perdu trois matchs qui étaient complètement prenables contre Palace, Southampton et Brighton, ce qui m'a un peu traumatisé. C'est ça. De ce que j'ai vu cette saison, tactiquement, c'est beaucoup mieux du côté des Gunners. Puis s'ils peuvent aller chercher ces matchs-là qui sont plus prenables face aux petits clubs de manière convaincante, les chances pour le top 4 vont être encore meilleures. Parce que on s'entend que les matchs contre Liverpool, contre Chelsea, contre City, ça va être très, très difficile. Donc, s'ils peuvent aller chercher ces matchs-là, c'est ça qui est plus important. Ils ne peuvent pas se permettre de les échapper cette saison.
En effet, donc, ce sera à suivre la saison qui va toute se dérouler pendant quasiment tout bon 6-8 mois. Ou après, il va y avoir une pause d'un mois à cause de la Coupe du Monde qui va avoir lieu en novembre. Novembre-décembre. Ce sera à suivre. Parlons maintenant de course automobile, parce que la Formule 1, oui, certes, est en vacances pendant 3 semaines pour le congé. Cependant, on a eu beaucoup d'actions qui s'est déroulées, pas sur la piste, mais sur le marché des transferts. Parce qu'il faut savoir que très souvent en Formule 1, on va voir des transferts arriver avant que le début de la saison se fait. Donc, on annonce déjà en avance quel pilote on va avoir pour la prochaine saison. C'est rare, ça ne se fait pas dans beaucoup de sports, mais en Formule 1, c'est comme ça qu'on fonctionne et on y va ainsi. Donc, on avait déjà annoncé donc la retraite de Sebastian Vettel. Donc, ça laissait une place disponible pour Aston Martin. Donc, ça, c'est comme un peu. Il faut savoir aussi, la Formule 1, lorsqu'on parle des marchés de transfert, c'est quasiment rendu une chaise musicale. Quelqu'un un s'en va, l'autre va aller remplacer tel, puis là, l'autre, puis là, c'est rendu un. Faut que la chaîne débloque pour qu'après un après l'autre fasse annonce un changement. Et bien cette fois-ci, c'était Sebastian Vettel qui annonçait la retraite. Fait que là, Aston Martin a une place de libérer. Et bien là, lundi passé, on annonce que Fernando Alonso, donc pilote chez Alpine, va remplacer Sebastian Vettel et va aller chez Aston Martin. Vraiment surprenant. Alpine ne s'y attendait pas du tout à ce genre de transfert-là. Le gros changement, puis qu'est-ce qui a fait qu'Alonso a décidé d'aller chez Aston Martin, c'est qu'Aston Martin était prêt à y donner plusieurs années, faire un contrat de plusieurs années, tandis que Alpine voulait juste y donner un an, parce qu'il voyait que d'autres recrues s'en venaient, fait qu'il voulait pas prendre de risques. Fait qu'Alonso a juste dit, tu me proposes. Le niveau monétaire chez Alpine, c'était pas un problème. Le problème, c'était d'avoir un contrat à plusieurs années. Parce qu'il faut savoir que Fernando Alonso, double champion du monde, il commence plus à être jeune. Maintenant, il a...
En fait, il était supposé prendre sa retraite en 2018.
C'est ça. Et en plus de ça, il est rendu à 41 ans. Là. Puis là, en plus de ça, il vient de se trouver une place chez Aston Martin. Puis pour plusieurs années, là, pour au moins 2024. Minimum. Assez impressionnant. Donc, Aston Martin qui essaie d'avoir de l'expérience pour essayer de améliorer la voiture. C'est sûr que Aston Martin essaie de revenir sur les fronts en avant de la tête pour il y a beaucoup d'argent qui sont en train de mis pour avoir une nouvelle soufflerie qui arrive en 2023, je pense. Donc, ça va être en 2024-2025 qu'on va voir les résultats. Donc, Fernando Alonso croit plus au projet Aston Martin qu'au projet Alpine, donc quitte Alpine. Et là, après, Alpine se ramasse avec une place disponible. Qu'est-ce qui est la solution la plus évidente pour Alpine, c'était bien évidemment d'aller chercher un jeune, un certain Oscar Piastri. Donc, un pilote excellent, très bon pilote. C'est juste que le problème, c'est qu'il est jeune, donc ça va être une année recrue pour lui.
Champion d'F2, je ne comprends pas.
Champion d'F2 également, c'est ça. Donc, en gros, champion d'F2, c'est un petit peu comme au hockey, c'est comme AHL, mettons. Pour faire simple, mais c'est pas tout à fait ça, mais pour faire simple. Donc, reste qu'il est un excellent pilote. Et là, on se dit, qu'est-ce qui est... On pourrait bien dire qu'il pourrait aller chez Alpine. Fait qu'Alpine annonce qu'il va avoir Piastri le mardi. Une heure plus tard, Oscar Piastri lui-même va écrire sur les réseaux sociaux « Ce n'est pas vrai, je n'ai pas signé de contrat, je ne vais pas rouler chez Alpine l'année prochaine. »
Écoute, digne d'un soap.
pardon? Le drama? Allô, le drama, il est là? Oui, je suis présent. Eh bien, Oscar Piastri a vraiment... En plus de ça, il est dans l'Académie d'Alpine, a juste dit « Non, je roule pas chez vous. » Sauf que cependant, Alpine mentionne qu'eux autres, ils ont raison, parce que techniquement, dans le contrat, il y aurait une clause dans le contrat où est-ce que si on te proposerait une place en F1, tu serais obligé d'accepter. Puis t'es obligé de co-signer le contrat. Fait que là, en ce moment, il y a comme tout un débat qui est parti. Donc, entre Alpine et Piastri, parce que Alpine veut absolument avoir Oscar Piastri, parce que s'ils n'ont pas Oscar Piastri, ils sont un petit peu dans le trouble, pour essayer de se trouver un autre pilote, à part Oscar Piastri. Donc, ça va être une grosse situation qui va être à suivre, puis pour l'instant, même, aucun des deux ne veut comme recommander par-dessus tout ce qui se passe. Sincèrement, ça peut même finir aux avocats. Je sais, ça peut aller loin, là, cette situation-là. C'est sûr qu'Alpine, si le pilote ne veut pas signer, il ne va pas faire exprès d'essayer de le pousser, parce que sinon, ben, il ne va peut-être pas faire aussi les grosses performances qu'il souhaite, ou il va peut-être faire exprès de... Il ne va pas autant lui tenter qu'un autre pilote. Ça va être à suivre. Donc, ce qu'il donne maintenant, c'est que je lui donne un aperçu de qu'est-ce qu'on a en ce moment. Donc, j'ai fait toute une fiche avec tout qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la Formule 1, qui peut arriver. Donc, j'ai fait toute une fiche avec les 10 écuries. On va commencer par ceux qui sont de valeur sûre. Valeur sûre, donc ceux qui n'ont aucun changement, c'est sûr à 100%. Mercedes. Donc, Hamilton puis George Russell jusqu'en 2023. Donc, ça, oublie ça, ça va rester comme ça. Ferrari. Ils ont Leclerc, Sainz jusqu'en 2024. Ça ne change pas. Red Bull, ils ont Verstappen jusqu'en 2028. Puis Sergio Perez jusqu'en 2024. Ça ne changera pas. Aston Martin vient de signer Alonso. Donc, jusqu'en au moins 2024. Puis Lance Stroll est le seul pilote à avoir une permanence. Donc, un contrat permanent avec Aston Martin. Après, vous me direz, c'est sûr que quand ton père, c'est le proprio de l'écurie, ça l'aide.
C'est ça.
après, ça, c'est comme la catégorie. Donc, ces catégories-là, c'est sûr, à 100%, ça ne change rien. Où est-ce qu'on pourrait peut-être voir des changements? Donc, je les mettrai un peu en jaune. C'est donc les trois écuries suivantes. Alfa Romeo, McLaren, Haas. Ben, même McLaren, même, je pourrais dire, groupe très plus probable d'avoir des changements parce que Lando Norris est signé jusqu'en 2025. Ça, c'est sûr, à 100%. Daniel Ricciardo est signé jusqu'en 2023. Cependant, la rumeur court en ce moment que ce serait Oscar Piastri qui irait chez McLaren, donc qui tasserait Daniel Ricciardo. Donc, en plus de ça, techniquement, le contrat de Daniel Ricciardo finit en 2023. Mais après, bon, ils peuvent avoir une résiliation de contrat, un accord en commun, ça pourrait arriver. Mais en ce moment, c'est la plus grosse rumeur, puis j'en entends beaucoup, beaucoup, beaucoup parler, que le plus gros point, c'est que Oscar Piastri irait chez McLaren prendre la place à Daniel Ricciardo. Fait que ça pourrait faire un énorme changement. Ici, après, on y va avec Alfa Romeo. Bottas, 2025, oublie ça, ça ne change pas. Guanyu Zhou termine techniquement et finit son contrat cette année. Après, que Guanyu Zhou a quand même connu une bonne saison. Moins bonne que celle de Bottas, en effet. Mais c'est sa première année en Formule 1. Il a quand même connu une bonne saison. Puis, en même temps, ce que tu regardes les autres choix, ben, c'est d'aller chercher des hauts pour cher. Théo Pourchaire, en ce moment, il est troisième, deuxième au championnat en F2. Donc, il est quand même dans le top 4, là, je le dirais, pour être une valeur sûre. Fait qu'il pourrait aller chercher Théo Pourchaire, Mais est-ce que c'est vraiment le moment d'aller le chercher maintenant? Ça, c'est une autre question. Moi, ça m'étonnerait que Théo Pourchaire aille chez Alfa Romeo. Ça m'étonnerait. Je pense que Guanyujo va signer, va juste prolonger. Ils vont juste pas se poser de questions. Donc, c'est pas mal ça pour Alfa Romeo. Sinon, on a Haas. Kevin Magnussen signe jusqu'en 2023. Et Mick Schumacher, techniquement, signe jusqu'en 2022. Mais là, après, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il pouvait aller chez Aston Martin. Parce que l'Aston Martin vient d'avoir Alonso. Fait que pour moi, Mick Schumacher, je vois pas comment, où est-ce qu'il y a d'autres qui pourraient atterrir que juste prolonger ses As. Puis ça va bien chez As, il n'y a pas de problème. C'est sûr que la voiture, peut-être pas la meilleure, mais c'est ça la vie. Quand c'est ta première année en Formule 1, attends-toi pas à avoir la meilleure voiture. Là où est-ce que ça commence à se compliquer? Déjà, on va commencer par AlphaTauri. AlphaTauri, techniquement, a Pierre Gasly jusqu'en 2024, valeur sûre. Là, tu as Yuki Tsunoda aussi. Yuki Tsunoda, son contrat est fini cette année. Puis, c'est peut-être pas la meilleure saison qu'il s'attendait. Puis, il s'attendait à plus que lui. Puis, on dirait qu'à chaque année, on s'attend à plus que lui. Puis, malheureusement, il nous déçoit. Fait que ça se peut que Yuki Tsunoda prenne la porte et vont chercher un autre pilote chez Red Bull. Ou ça se peut qu'il prolonge, mais seulement une année. Puis, dit, là, tu te rattrapes parce que sinon, il y en a beaucoup trop qui vont. Il y en a d'autres qui vont prendre la place. Donc, ce sera à suivre. Et là, on arrive aussi également à Williams. Alex Albon vient de signer, mais Nicolas Latifi, il y a des très fortes chances qu'il prend la porte.
Si écoute, je sais pas comment est-ce que Latifi peut avoir un vote, fait pour avoir encore un volant. Je pense que ce gars-là n'a pas fini avant-dernier une seule fois cette saison. Mais c'est parce que même depuis le début de sa carrière, je pense qu'il n'a même pas passé proche du top 10.
Latifi, c'est un petit peu comme Stroll. Là. Ses parents ont beaucoup d'argent à dépenser. Fait que c'est sûr que quand tu as ce pilote-là, ben, tu en profites pour que les parents ils vont mettre de l'argent dans l'écurie.
C'est sûr. Mais Stroll ça avait quand même fait ses preuves en F3 puis en F2. Il a quand même.
Il a sauté la F2, si mes souvenirs sont bons. Stroll.
Peut-être. Mais il récolte des points régulièrement, en fait, quelque part dans sa carrière. Stroll, c'est pas un top pilote, mais il a quand même un certain talent. Latifi, c'est rien.
Faut pas oublier une chose, c'est que Lance Stroll a fait un podium avec une Williams.
Mm-hmm.
Faut pas oublier ça. Faut pas oublier cette information-là. Donc, assez impressionnant de voir ça. Fait que Nicolas Latifi, probablement qu'il peut quitter, pourrait le remplacer par Nick De Vries. Donc, pilote, je pense qu'il est réserviste chez Mercedes présentement. Donc, un jeune pourrait prendre la place de Nicolas Latifi. Et là, le gros problème, c'est Alpine. Alpine, t'as Ocon signé jusqu'en 2024, mais là, t'as une place de disponible. Tu vas chercher qui?
Ricardo?
Ben c'est ça. Là, tu dis, si Piastri s'en va, tu peux aller chercher Ricardo. Est-ce que Ricardo veut revenir chez Alpine? Parce qu'il faut se souvenir qu'il y a 2 ans, il était chez Renault, qui était ancien Renault. Sinon, tu veux aller chercher qui d'autre? Pierre Gasly? Parce que Pierre Gasly, techniquement, dans une clause de contrat, si l'écurie est meilleure, il peut partir. Fait qu'il pourrait aller chercher Pierre Gasly. Sinon, Théo Pourchaire, ça m'étonnerait qu'il voudrait aller parce qu'il est à Sauber Academy, donc l'académie de Alfa Romeo. Ça m'étonnerait que Alfa Romeo le laisse aller. Ça fait beaucoup de changements qui peuvent s'annoncer, donc ce sera à suivre. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'on commence à être loin dans l'épisode. Faut pas que je dépasse. Doualé, tu voulais parler de la situation entourant Brittany Griner en Russie.
Ouais, ben écoute, c'est vraiment une situation assez particulière, ça, de Brittany Griner, qui est quand même emprisonné en Russie depuis le mois de février, là, juste pour mettre en contexte les gens. En fait, Brittany Griner a été condamnée par un juge russe à 9 ans de prison. Puis c'est important de préciser. La raison pour laquelle elle a été emprisonnée, c'est que lors du 17 février 2022, alors qu'elle décidait d'aller jouer un match de basketball en Russie, elle s'est fait arrêter à l'aéroport de Moscou après s'être fait repérer par un chien qui s'est détecté les stupéfiants. Puis, en fait, la raison pour laquelle elle a été prise avec de la drogue, parce que c'est vraiment ça qu'elle est accusée, c'est que, vous savez, souvent, surtout chez les fumeurs de cigarettes électroniques, de vapotage, des fois, ça arrive qu'il y en a plusieurs qui ont des cartouches avec de l'huile de cannabis. Puis c'est exactement ce qui s'est passé du côté de Brittany Griner, qu'elle avait des cartouches de vapotage jugées illégales avec de l'huile de cannabis à l'intérieur. Puis, elle a été incarcérée en Russie depuis cette journée-là. Puis, lors du premier mois de son incarcération, elle faisait face à une peine entre 5 et 10 ans. Puis, finalement, jeudi dernier, elle a été condamnée à 9 ans de prison par la juge Anna Stopnikova. Ouais, c'est ça, je l'ai bien dit. La raison pour laquelle elle a été jugée, la raison pour laquelle elle a été condamnée à 9 ans au lieu de 10 ans, c'est que son incarcération a été comptabilisée dans le 10 ans de peine qu'elle faisait face. Donc, elle a 9 ans de prison. Puis, c'est ça qui est assez fou, c'est que c'est sa preuve, c'est vraiment la, parce que moi, pour moi, c'est vraiment la première fois que je vois une athlète de haut niveau de ce niveau-là, surtout que Brittany Griner, il faut le rappeler, c'est une joueuse de la WNBA, elle jouait pour le Mercury de Phoenix. Elle avait quand même moins de plus de 20 points par match en passant dans la WNBA, donc c'est quand même une joueuse vedette du côté de la WNBA. Puis, elle ne peut plus pratiquer son sport, puis elle est emprisonnée. Puis, ça a quand même créé un tollé du côté des États-Unis. Oui, il y a un peu moins d'attention qui a été portée ici au Canada, surtout au Québec, je parle. Il y a eu quelques articles, mais vraiment, ça fait beaucoup moins d'écho que ce qu'on voit aux États-Unis. Il y a Joe Biden également qui a condamné son emprisonnement, puis qui a demandé c'est sa libération. Puis, qu'est-ce qu'il fout dans cette tentative de libération? C'est que ça a l'air qu'il y aurait des discussions entre les États-Unis et la Russie pour faire un transfert de prisonniers, en fait, on va dire. En fait, ce serait de transférer, en fait, de retourner Brittany Griner du côté des États-Unis avec également Paul Willem, qui est un Américain qui est emprisonné en Russie en raison de d'espionnage. Puis l'échange, ce serait contre un trafiquant d'armes russes qui est emprisonné aux États-Unis. Donc, c'est vraiment un transfert deux pour un. Qu'est-ce qui est vraiment particulier, parce que ça veut dire que c'est une des seules façons qu'on va peut-être voir Brittany Griner revenir du côté de l'Amérique du Nord, parce qu'en ce moment, c'est très compliqué sa situation. Puis, c'est elle ne peut pas jouer au basket. Puis, c'est une histoire qui nous laisse prévoir à poser beaucoup de questions par rapport à c'est de la faute à qui, est-ce que c'est vraiment un accident, parce qu'elle, elle a dit que c'était vraiment accidentel, qu'elle n'avait aucune intention de ramener de la drogue en Russie. Puis, c'est de sa faute, mais il y a des questions à se poser par rapport à ça. Puis je trouve que c'est un dossier intéressant parce que il y en a qui jugent qu'elle est qu'elle est victime de sexisme ou de discrimination due au fait que c'est une jeune femme noire qui fait partie d'une communauté qui a pas eu beaucoup de soutien non plus de la part des Américains. Puis ça laisse prévoir les questions. Je trouve que c'est un dossier hyper intéressant, puis je trouve ça quand même extrêmement particulier, la situation de Brittany Griner du côté des États, de la Russie. Puis je voulais souligner un peu cette situation-là.
Oui, mais c'est une situation qui est assez particulière. On verra qu'est-ce qui va en suivre, s'il va y avoir un change de prisonnier ou non. Donc, ça sera à suivre de ce côté-là. Thomas, tu voulais parler de hockey parce qu'on a le Inlac Gretzky et champion du monde junior qui arrive. Ben, Inlac, c'est,
oui,
c'est,
ben,
ça se déroule.
C'était. Puis, ben,
c'est, ça se déroule, puis après, le champion junior, il arrive.
Oui, ben, ça, ben, c'était la fin du tournoi d'Inca Gretzky.
Ouais.
Hier, samedi, et le Canada qui a remporté la 23e médaille d'or, en fait, sa 23e médaille d'or du tournoi. Seulement. En 23e en 26 éditions, si je ne me trompe pas. Écoute, je trouve que le Canada domine complètement. A battu la Suède 4-1 en finale hier. Et c'est... a été intraitable dans tout le tournoi, en fait. Il a seulement accordé 3 buts dans tout le tournoi. J'ai statistique pour la phase de groupe devant moi seulement, mais on parle d'un différentiel de positif de plus de 15 buts pour le Canada.
Ouais, mais il avait gagné genre 14-0 contre... ça, 12-13, c'était pas 13-0 contre la Suisse?
Ça se peut, j'ai pas les chiffres devant moi. Là. Mais le Canada qui a été mené par 3 joueurs, en fait 4 joueurs vraiment, Brendan Yeager, Ethan Gauthier et Tanner Hall ainsi que Zach Benson qui ont vraiment dominé le tournoi de A à Z. Donc, le Canada qui remporte ce premier ce tournoi d'avant-saison-là, des moins de 18 ans. C'est pas un tournoi sanctionné par l'IHF en tant que tel. Donc, officiellement, c'est pas officiel, mais c'est quand même un tournoi important pour évaluer les jeunes de 18 ans avant leur année de repêchage. La Finlande a remporté le bronze avec une victoire de 3-1 face à la Tchéquie. C'est un peu ce qui complète pour le tournoi d'Inka Gretzky. C'est la reprise des championnats du monde junior qui débute à partir
ça,
de mardi.
C'est mardi. Ah, ok, ouais, c'est mardi.
Oui, du côté du Canada, c'est à peu près la même équipe qui revient. La même équipe de cet hiver, le Canada qui perd quelques joueurs, dont Shane Wright, Maverick Bourque, entre autres. Owen Power également. On va surveiller du côté du Canada. Connor Bedard, évidemment, potentiel premier choix lors du prochain repêchage. Également Riley Kidney et Joshua Roy, deux espoirs du Canadien, ainsi que Mason McTavish, qui espoir des Ducks, qui sera capitaine de la formation canadienne et qui devrait jouer à Anaheim la saison prochaine. Avait joué quelques matchs l'année passée dans les nationales avant d'être retourné dans le junior. Le Canada qui part favori du tournoi comme à peu près à chaque année. Dans les autres équipes, il y a bien sûr les Américains, les Suédois, la Finlande qui font partie des favoris. Fans du Canadien, je vous invite à surveiller la Tchéquie avec Jan Michak qui reviendra à titre de capitaine. Ainsi que du côté de la Finlande, les défenseurs Petteri Nurmi, qui est un choix de 7e ronde lors du 5e repêchage, ainsi que Oliver Kapanen, un choix de 2e ronde en 2020, du côté du Canadien. Par contre, chez les Slovaques, ça va être un dur lendemain de veille. Évidemment, Juraj Slafkovský ne sera pas présent, ainsi que Philippe Messer, Martin Kromak, Kromiak et Simon Nemec qui vont également manquer le tournoi. Donc, j'imagine que de leur côté, ils auraient espéré grandement que le tournoi ait lieu plutôt cet hiver puisque tout leur noyau de cet hiver ne seront pas présents lors du prochain tournoi. Le Canada qui est dans un groupe avec la Tchéquie, la Finlande, la Lettonie ainsi que la Slovaquie, l'Autriche, l'Allemagne, la Suède, la Suisse ainsi que les États-Unis sont dans le groupe B. Et pour ceux qui se demandent où est la Russie, ils ont été bannis du tournoi suite aux événements de février en Ukraine. On ne verra pas Matvey Mishkov lors du championnat du monde junior. Le Canada qui commence son tournoi mercredi face à la Lettonie. Ça ne sera à ne pas manquer. D'habitude, c'est le rendez-vous des fêtes, le championnat du monde junior. De cette fois-ci, ça va être au mois d'août. Puis ça va revenir aux fêtes. À ne pas manquer dans les deux prochaines semaines, championnat du monde junior qui débute mardi.
Mais là, attends, juste pour être sûr, parce que j'ai pas comme tout suivi de la chose. Est-ce que lorsqu'il va redébuter, est-ce qu'il recommence là où est-ce qu'il avait arrêté?
Il recommence à zéro.
Okay, il part par la page blanche puis il repart.
Exactement.
OK, c'est bon. Fait que là, il n'y a juste personne qui remplace la Russie, là, si je comprends bien.
Non, c'est l'Autriche qui remplace la Russie.
L'Autriche, OK. Fait que au moins, il va avoir autant de games chacun des deux côtés. Ce sera à suivre de ce côté-là. Ça va se passer au Canada, notamment.
Attends, c'est pas vrai, excuse. C'est la Lettonie.
La Lettonie? OK, excuse.
Ouais.
C'est vrai que l'Autriche, oui, c'est vrai, l'Autriche, j'étais déjà là.
Oui, puis le tournoi qui va avoir lieu à Edmonton et à Red Deer, comme ce qu'ils avaient que cet hiver.
OK. Pour moi, ça, c'est déjà le fun, parce que sinon, repartir de là où est-ce qu'il était, c'était un petit peu plus complexe.
Ouais.
Parce qu'après, là, est-ce que les games qui ont pas compté, est-ce que les games qui ont été déclarés forfait, ils comptent? Est-ce que les games...
Ben, c'est ça. C'est moins compliqué de repartir à zéro, donc...
Ouais. On n'oubliera pas aussi, notamment, que la semaine prochaine, cette semaine, notamment, c'est le début du tournoi de l'Omnium Banque Nationale qui débute à Montréal et à Toronto. Donc, les messieurs seront à Montréal et les dames seront à Toronto. À surveiller, bien évidemment, nos Canadiens. À Montréal, on a Félix Auger-Aliassime, qui a quand même une bonne portion de tableau, qu'il a réussi à avoir quand même un bon tirage. Ce sera intéressant à suivre. Du coup, sinon, on a aussi Félix Auger-Aliassime qui sera présent. Félix Auger-Aliassime. Félix. J'étais Denis Chapovalov, excusez-moi. Denis Chapovalov, qu'est-ce qui va être plus complexe? C'est son match de premier tour. Malheureusement, Félix a tombé contre l'Australien Alex de Menor. Ouch.
Félix n'a pas un bail pour le premier.
Oui, ça, mais Félix a un bail. OK, ouais. je repars à zéro. Félix a un bail, puis il y a une bonne personne de tableau.
OK.
Denis, premier tour, il pogne Alex de Menor, l'Australien.
OK.
Fait que, ouch pour Denis Chapovalov, sincèrement.
Oui.
Aurait pu tomber pour mieux pour ça. Puis après, ici, gagne, il joue contre Grigor Dimitrov ou le Canadien qui a reçu une invitation, le Québécois même, Alexis Galarneau. Donc, c'est intéressant à suivre. Sinon, on a Vasek Pospisil aussi également qui va être présent. Il va jouer contre Tommy Paul au premier tour. Sinon, j'en ai-tu manqué des Canadiens? Je pense pas chez les messieurs. Non, je pense qu'on les a toutes. Après, bien évidemment, à suivre Medvedev, Alcaraz. Alcaraz, tête de série numéro 2 à Montréal. Petit rappel, mesdames et messieurs, il y a 19 ans.
C'est le prochain Nadal.
C'est le prochain, mais c'est Nadal 2.0, quasiment. Ouais. Puis Alcaraz est déjà 4e mondial à 19 ans. Vous m'avez bien compris. C'est vraiment assez impressionnant de ce côté-là. C'est sûr que oui, des grosses têtes ne seront pas présentes, donc Djokovic, parce qu'il n'a pas montré son statut vaccinal. Federer, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas revu. Et Nadal, est blessé à l'abdomen. Donc, déchirure à l'abdomen qui s'est faite à Wimbledon. Malheureusement. Mais ça reste que... c'est pas parce qu'il y a ces trois grandes têtes-là du tennis, donc le Big Three qu'on en avait appelé, qu'on ne peut pas avoir du beau tennis à Montréal. Lorsqu'on regarde quand même le top 10 présent, il y en a comme les 7 meilleurs sont là, même les 8. Les 8 sont toutes là, fait que quand même assez présent pour participer à Montréal. Si on regarde cette fois-ci à Toronto, nous avons donc des Canadiens, évidemment. Leila Fernandez qui va être de retour va jouer contre une qualifiée au premier tour. Par contre, Leila Fernandez, malheureusement, est tombée dans la mauvaise portion du tableau. Très mauvaise. Où est-ce que tout le monde est là? Donc, dans la même portion, dans le même quart du tableau, si je peux dire, que Serena Williams, qui va être présente, Muguruza, Iga Swiatek, Osaka, Kanepi,
ça va être difficile.
Le quart, la portion du haut, tout le monde est là. Toutes les grosses joueuses de tennis qui ont gagné des grands chelems, qui ont eu des grosses saisons, sont toutes là. Même Azarenka. Azarenka, je pense qu'elle ne peut pas être présente. Ça vient d'être annoncé. Je pense qu'il y a eu un message de dernière minute pour dire qu'Azarenka ne peut pas être présente. Je ne veux pas avancer là-dessus. Mais Belinda Bencic, qui a gagné les Olympiques l'année passée. En gros, tout le monde a pris la mauvaise portion du tableau. Où est-ce que tout le monde est? Mais bon, faut faire avec. C'est les fruits du hasard, comme on dit. Sinon, bien évidemment, à surveiller, je dis Serena, mais aussi Vénus, qui va être présente. Un peu plus bas dans la partie du haut, si je peux dire. Fait qu'elle n'a pas la grosse portion pour les quarts de finale de la mort, là, quasiment. Là. Fait que assez facile. Sinon, on a aussi Marino qui va être présente. Rebecca Marino qui sera dans. Va affronter Quinn Wen Zheng, donc la chinoise au premier tour. Si elle remporte, elle va jouer contre Ons Jabeur au second tour. Ça va être plus complexe pour elle, cependant. Sinon, on a Bianca Andreescu qui va être là. Cependant, Bianca, il ne faut pas s'attendre. Elle joue contre la tête de série numéro 14, Daria Kazakhtina. Je vais y arriver.
En russe, c'est moins bon que celui de Doux.
Ouais, c'est ça. C'est sûr que Bianca, déjà de base, avait des douleurs au dos la semaine passée. Donc, sera à suivre. Donc, si elle va pouvoir jouer. Sinon, on a Carol Zhao qui va être présente. Elle va jouer contre Amanda Anisimova au premier tour. Rage, malheureusement. Donc, c'est pas mal tout ce qui conclut. Donc, à surveiller, bien évidemment, le tournoi. De l'Omnium Bank National qui se déroule à Montréal et à Toronto. Profitez-en, allez voir. Ça fait pas trop chaud. Si vous êtes disponible, bien évidemment. C'est toujours fun d'avoir le meilleur du tennis à Montréal et sur nos terrains. Ça se passe donc au stade IGA. Et ça pas changé, c'est encore IGA. Oui, c'est ça. T'avais quelque chose à dire, Doualé?
Non, pas du tout.
Ben. On va vous dire. Merci beaucoup, messieurs.
Mais merci à toi, Ali, encore. Merci à toi, Thomas, aussi. C'est
un grand plaisir d'avoir
été là. C'est un grand plaisir.
C'est toujours le fun de faire un petit épisode avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour parler encore une fois de tennis, probablement. Formule 1, il va se passer des choses. Très probablement. Soccer, ça vient de commencer. Fait que la saison européenne vient de commencer. Et celle de la MLS, c'est pas sur le point de venir. Le CF, il reste encore comme 10 matchs.
Oui, une scène de
match. Ce match avant que les séries. Donc, on arrive vers la dernière ligne droite, si on peut dire ça comme ça. Puis le baseball, on a jusqu'en octobre. Là. Fait que, quittez-vous pas, mesdames et messieurs, on a encore beaucoup de sujets à parler.
Oui, puis il y a aussi le hockey qui commence.
Oui, mais le hockey commence. Oui, mais là, ça, c'est le championnat mondial. Mais après, c'est.
Mais championnat du monde junior. Après, ouais,
Moi, je pense du junior.
Ça va être le début des camps.
Ouais, le camp, il commence quoi en fin août, genre?
Ben, début mi-septembre.
Oui, c'est vrai, en plus. Encore un petit peu de temps avant de recommencer. Donc, à part le mondial junior. Là.
Puis les camps de la NFL qui ont débuté cette semaine.
Ouais.
Écoute, le sport qui tranquillement arrive dans sa période la plus excitante de l'année.
Ou est-ce qu'il y a tellement de sujets que tu sais plus quel prendre?
Oui.
Donc, c'est qu'est-ce qui va conclure l'épisode, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été présent. On se retrouve la semaine prochaine pour encore parler de plus de sport. Mon nom est Olivier Larose et je vous salue. Allez, ciao, ciao!